Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce café scientifique neuchâtelois, celui du mois de mars, intitulé « Humain ou singe à qui l'AOC du langage ?» Donc pour ceux que les abréviations rebutent, AOC, appellation, voilà, comme notre belle région. Hein. Alors une fois n'est pas coutume, nous avons réuni pour l'occasion aussi des professeurs d'origine contrôlée, trois spécialistes maison, pour parler de cette thématique, donc l'origine du langage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une qualité proprement humaine, ou bien est-ce qu'on la retrouve chez les animaux, chez les singes en particulier? Et on a la chance d'avoir justement trois regards différents sur cette question, trois disciplines qui sont représentées ce soir ici, la primatologie, la linguistique et la psychologie. Si ces trois compères, je crois qu'on peut les appeler comme ça, sont réunis ce soir, ce n'est pas tout à fait un hasard. Ils sont en effet tous trois impliqués dans la mise en place du volet langage d'un programme de recherche interdisciplinaire sur la cognition, c'est-à-dire les processus d'acquisition des connaissances. Et donc le thème de ce soir était parfait pour les inviter à faire partager leurs connaissances à eux avec vous, le public qui est venu nombreux ce soir, et je m'en réjouis. Comme à l'accoutumée, je vais inviter les trois protagonistes à se présenter brièvement, à déclarer leur intérêt par rapport à cette thématique et sous quelle langue ils vont l'aborder. Alors, tout seigneur, tout honneur, Klaus Zuber-Bühler, qui a un peu cristallisé, au fond, cette discussion, puisque son sujet de recherche est on ne peut plus ambitieux, c'est un sacré objectif, ce n'est ni plus ni moins que la recherche des origines du langage à travers un voyage qui, je l'espère, sera très exotique, puisqu'on va sûrement se retrouver plongé dans une atmosphère africaine sous peu, puisque son sujet d'étude... Ce sont les singes dans leur habitat naturel, je précise, et pas en zoo. Il aura l'occasion de vous le redire. Donc, à vous l'honneur, Klaus, je vous invite à vous présenter et puis à dire un peu deux mots sur vos recherches.
Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Klaus Zuber-Bühler, j'ai commencé ici à Neuchâtel, je crois il y a un an maintenant. Comme professeur en primatologie. Avant, j'étais en Écosse à l'université de St. Andrews, où j'étais un professeur en psychologie. Et mon encadrement est vraiment dans la région de zoologie, donc j'étais à Zurich avant, où j'ai fait mon diplôme en zoologie, après en psychologie aux États-Unis. Et mon intérêt scientifique est vraiment concerne la question du langage humain, les origines très très basiques, et comme nous sommes des primates, une hypothèse à explorer, c'est est-ce qu'il y a des similarités entre nous et nos voisins chez les animaux. Donc c'est tout.
Merci beaucoup. À côté de vous, à votre gauche. Notre linguiste, professeur de linguistique à l'Université de Neuchâtel, Louis de Saussure, spécialiste notamment, parmi ses nombreuses casquettes, de l'analyse du discours. Alors, Louis de Saussure, en deux mots.
Oui, vous avez tout dit. Voilà. Je suis professeur de linguistique, analyse du discours ici à l'Université de Neuchâtel. Ma spécialité concerne essentiellement la sémantique, avant tout. La sémantique, c'est-à-dire la question du sens. Évidemment que c'est une question cruciale quand on s'intéresse au langage, puisque probablement que le langage sert essentiellement à émettre, produire, communiquer du sens. Donc je m'intéresse en premier lieu aux aspects liés à la communication, si vous voulez, langagière. Mais évidemment que quand on est linguiste, on s'intéresse aussi à d'autres aspects plus structurels du langage. Voilà, mon parcours.
Et notamment l'origine.
Oui, évidemment, un peu.
Merci Louis de Saussure. Et finalement, Adrien Bangerter. Quand on a cherché à trouver une appellation pour qualifier votre affiliation. Vous m'avez suggéré cette jolie formule, psychologue de la conversation. Alors, je pense que ça mériterait quelques petites explications.
Oui, merci. Bonsoir, merci. Tout le monde. Donc, je suis ici professeur de psychologie du travail en notre faculté des sciences économiques, et j'ai différents centres d'intérêt. Une de mes passions scientifiques est justement l'étude de la conversation, et je pense que c'est en cette capacité que je suis ici ce soir. Donc, dans le cadre de cet intérêt, ce que je fais, c'est que je passe mon temps à étudier de manière détaillée comment les gens interagissent en conversation. Donc, je m'intéresse à la façon dont le langage est utilisé pour coordonner la compréhension, pour coordonner les interactions dans les conversations. Et donc, je mets les gens dans des situations expérimentales, j'étudie les gens dans des situations quotidiennes, qui marchent dans la rue, qui parlent ensemble, etc. Et j'aime bien analyser de manière très, très minutieuse les petits mots qu'ils utilisent pour s'entendre, pour échanger, pour créer une intersubjectivité. Voilà.
Voilà qui est très clair. Merci. En préambule, avant de lancer la discussion avec la salle, je me suis amusé évidemment à chercher un moyen de lancer cette discussion et j'ai pensé bêtement au dictionnaire. Que dit le dictionnaire quand je regarde langage ? Faculté que les hommes possèdent d'exprimer leurs pensées et de communiquer entre eux au moyen d'un système de signes conventionnel et ou graphique. Voilà, le dictionnaire a tranché, hein. Les hommes. Bon, les femmes aussi, je suppose, quand même. Donc, les humains, tout est dit. Alors, pourquoi cette discussion ce soir ? On va élargir le débat et j'espère qu'on aura des réponses qui vont au-delà de cette définition limitée du dictionnaire. Première question que j'ai envie de poser, et peut-être que je la poserai à l'ensemble des trois protagonistes, c'est d'où vient le langage et de quel besoin et pourquoi est-il apparu ? Alors, peut-être d'abord avec Klaus Zuber-Bühler, est-ce qu'on peut déjà dessiner pour quels besoins ont eu les animaux, au fond, de communiquer entre eux ?
Alors, d'où vient le langage ?
D'où vient le langage ?
Alors, premièrement, peut-être c'est à dire que biologiquement, nous sommes des primates et nous partageons beaucoup de notre histoire évolutive avec des autres espèces. Les chimpanzés sont très proches. Ça fait un peu 6 millions d'années quand nous sommes séparés, mais avant, nous étions une espèce. Et normalement, dans l'évolution, les choses ne changent pas très rapide. Et ça veut dire que beaucoup de comportements, des traits morphologiques et tout ça sont partagés entre des espèces qui sont proches. Et si on regarde les chimpanzés, comment ils se comportent, il y a beaucoup de similarités, mais aussi des différences, bien sûr. Et une différence qui est très claire, c'est la capacité du langage. Alors ça, c'est une exception, si vous voulez, où nous, les hommes, sommes uniques. Et ce n'est pas présent chez les chimpanzés. Et pour nous, la question, c'est vraiment comment c'est possible que dans notre espèce, cette capacité a évolué assez rapidement. Et l'hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup des éléments qui sont déjà sur place que l'homme a bénéficié pour cette évolution. Alors, ça concerne la question d'où vient le langage. Alors, moi, je pense qu'il y a des éléments, des briques qui sont sur place, qui sont réassemblées chez l'homme en langage. Et notre travail se concerne sur cette brique, ces éléments. Comment on peut les caractériser, la capacité de la sémantique, syntaxe, conversation, d'où les choses comme ça qui sont importantes. Et oui, alors ça c'est une chose à dire, je crois.
Louis de Saussure ?
Oui, alors, la question de l'origine du langage.
Pourquoi, oui. Voilà, pour quel besoin, voilà.
Oui, alors, voilà, c'est très important que vous disiez ça, parce que si vous posez la question de savoir pour quel besoin quelque chose a évolué, je pense qu'alors là, il faudra poser la question aux biologistes, qui sont les spécialistes d'évolution, ce que je ne suis pas, mais il faut faire attention, parce qu'en principe, on n'évolue pas de manière téléologique, c'est-à-dire on n'évolue pas pour satisfaire un besoin. C'est-à-dire qu'on a pu penser, par exemple, que la girafe a évolué en termes de longueur de cou, n'est-ce pas, pour attraper les feuilles en haut, mais évidemment ça, c'est prêter à la nature une sorte d'intentionnalité ou de, disons, d'objectif à atteindre, etc. Alors, en fait, ce sont, les choses sont passées bien différemment, mais il faudra vraiment demander aux biologistes de le dire. Il y a des mutations qui se font, et disons, qui, alors au hasard, enfin, bon, ça c'est un terme aussi compliqué, mais disons, qui permettent une meilleure survivance hein, aux, des individus. Donc si par hasard une girafe a un cou plus long, elle va attraper plus de feuilles, enfin voilà, c'est ça l'histoire, et elle aura des enfants girafes plus nombreux et plus robustes qui auront des longs, longs coups, et ça va se perpétuer comme ça. Alors ça, c'est un schéma complètement simplifié que j'ose à peine formuler devant les biologistes, disons, mais disons, il faut bien comprendre que le langage n'a pas évolué probablement pour satisfaire une attente de l'espèce qui se dit, tiens, si je développais un langage, vous voyez, c'est pas comme ça. Hein? Donc ça, c'est une question importante, premièrement, et qui nous ramène alors, finalement, à ce qui a bien pu se passer, c'est la question de tout à l'heure, disons, lorsque le langage est apparu chez l'homme. Qu'est-ce que ça a produit, si vous voulez, hein? C'est ça. Alors ça a produit, évidemment, un ensemble d'effets probablement même au niveau cognitif, lié à la pensée, à l'explosion, si vous voulez, des capacités de pensée, de représentation, de réflexion. Hein. Mais évidemment, tout ce qui est en lien avec la communication, disons, articulée, sophistiquée, de sens complexe, la transmission, la culture. Et il est évident que l'explosion culturelle qui s'est produite il y a 50 000 ans environ, tout ce qui a produit l'humanité en termes de culture, évidemment, est impossible, vraisemblablement, sans une forme assez sophistiquée de communication et d'expression, le langage. Alors, bon, je m'arrête là.
Adrien Bangerter, oui, par
oui, donc, pour reprendre sur la question de à quel besoin le langage répond-il, donc j'abonde
le point de vue dans ton sens.
Et puis je crois que si on veut répondre à cette question, il faut analyser un petit peu les contraintes et les pressions qui ont mené à l'évolution du langage au moment que tu mentionnes. Et je pense que si on regarde ça, il y a un lien, je pense, qui serait intéressant d'analyser au cours de cette soirée, qui est très importante, qui est le lien entre interaction sociale et langage. Et à mon avis, le langage a évolué parce qu'il y avait une pression sélective dans l'environnement des premiers groupes humains qui favorisait en fait l'émergence d'outils qui servent à coordonner les interactions sociales. Je crois que c'est probablement une des réponses qu'on peut donner à cette question des besoins auxquels répond le langage.
Alors pour se mettre encore plus dans l'ambiance, je propose à Klaus Zuber-Bühler de faire une illustration justement de ce qu'il vient dit, des interactions sociales, parce que je crois que vous avez préparé quelques petits échantillons de cris d'animaux que vous avez enregistrés sur le terrain. Est-ce que vous pouvez dire deux mots et nous les présenter, justement, pour illustrer ce propos ?
Alors, d'abord, c'est vraiment un peu l'histoire de la science. Alors, la primatologie a commencé de s'intéresser dans cette question du langage avec une série de recherches avec les singes vervettes que vous voyez. Je ne sais pas si... Voilà, merci. C'est un petit singe qu'on trouve en Afrique, un peu partout. Et là, on a trouvé que cette espèce est capable de produire différents cris d'alarme en relation à des événements externes. Alors, j'ai quelques enregistrements ici. Premièrement, c'est un cri d'alarme contre un python. OK. Alors, on peut dire que c'est rien, c'est un cri comme ça. Et puis, un deuxième exemple, un autre individu qui a découvert un aigle. Une aigle. Ok, encore une fois. C'est rapide. Et puis, troisièmement, contre une panthère, léopard. Ok. Alors, premièrement, personne n'a vraiment fait beaucoup d'attention, mais on a vu que quand un individu pousse ses cris, les autres réagissent. Et ils réagissent dans une manière très spécifique. Et ici, j'ai un petit enregistrement que Stéphanie Mercier a fait avec la BBC en Afrique du Sud. Ce qu'on a fait maintenant, on a enregistré les trois différents cris d'alarme et on a joué un exemplaire à un groupe dans l'absence d'un prédateur. Donc, il n'y a rien ici. La seule chose qu'il y a, c'est un haut-parleur qui joue un cri d'alarme. Et vous voyez comment ils réagissent. Voilà. Alors, il n'y a pas de son avec ça, mais vous avez vu que c'est immédiat. Et ce qui est important, la réaction est très adaptive par rapport au prédateur. Donc, si on joue, ça c'était un cri d'alarme contre une panthère, donc ils vont courir dans le forêt et ils vont grimper les arbres. Mais si on joue un cri d'alarme contre une aigle, ils vont chercher au ciel pour trouver le danger. Donc, l'interprétation, c'était que c'est pour ces singes, les différents cris portent un contenu, une signification, et on a parlé de la sémantique d'une manière très basique. Et c'est ça vraiment comment ce type de recherche a commencé. On a après ça commencé à faire des recherches sur des autres sujets. Est-ce qu'ils sont capables d'ajuster la communication par rapport à l'audience? Parce que chez nous, c'est très important. On parle de choses qui ont de la rélevance, qui sont importants pour des autres. Et chez les animaux, on n'était pas vraiment sûr. Et là, si je peux montrer un autre exemple. OK, voilà, on a une petite expérience. On a placé un modèle d'un serpent aux forêts et on a montré ça aux chimpanzés. Voilà, vous avez un chimpanzé qui marche. Il va trouver le serpent. Et la question était, est-ce que le chimpanzé va informer les autres membres de son groupe ou est-ce qu'il va seulement crier parce qu'il a peur? Et vous voyez ce qu'il va faire. Alors, il marche là. Maintenant, il a vu le serpent. Il fait des petits... Il fait des petits... Mais maintenant, il est seul. Et soudainement, il va découvrir qu'il y a un autre membre de son groupe qui s'approche. Et quand il voit ça, il va signaler...
Il hear a snake and slow.
Voilà, il a vu son groupe et il a juste donné un cri beaucoup plus fort. Pour informer cet individu qu'on va maintenant derrière là. Donc il y a un peu les deux dedans. Donc il est un peu agité parce qu'il a trouvé un serpent et il commence à commenter sur ça. Mais quand il regarde un autre qui arrive, il augmente son effort pour informer l'autre. Et vous voyez, l'effet était clair. Cet individu a arrêté, il ne progresse plus. Donc ça, c'est pour nous un preuve que les cris des singes, des chimpanzés, ne sont pas seulement des expressions, des émotions, ils sont aussi un peu gérés par les effets sur l'audience.
Voilà, merci pour ces belles illustrations. Alors, est-ce que vous êtes chaud là pour faire quelques cris, des questions? Voilà, le café, oui, monsieur.
Sur quel critère se base-t-on pour dire qu'une espèce animale est intelligente ou non?
Alors, est-ce qu'on relie la capacité de...
Non, c'est une question très importante, c'est clair. Et chez l'homme, ce qu'on fait normalement, on fait des tests IQ, peut-être tu peux parler sur ça. Et vraiment, c'est une batterie des tests qu'on fait et dépendant des nombres qu'on peut récolter, on peut dire que cette personne est plus intelligente par rapport à l'autre. Mais ça n'existe pas pour les animaux. Pas encore. Et aussi, c'est très difficile parce qu'il faut trouver des problèmes qui sont relevants pour les animaux. Et chaque espèce est différente. Pour un chat, il y a des autres choses qui sont relevantes par rapport à un buffle, par exemple. Donc, c'est difficile de trouver une mesure qui est juste pour toutes les espèces. Donc, c'est ça un peu le problème.
Vous voulez Adrien Margueter,
oui? Oui, alors je crois qu'un critère qui est communément admis, c'est dans quelle mesure est-ce que l'organisme est capable de trouver une solution originale à un problème Donc une solution originale, c'est une solution qui, dont il n'aurait pas hérité la solution de manière génétique, par exemple. Donc le problème, c'est d'adapter ce genre de critères général au contexte écologique dans lequel l'animal a évolué. Donc il faut trouver des tests qui sont, des situations de tests qui sont adéquats en fait à l'écologie de l'animal en question.
Donc on relie là langage avec intelligence, l'intelligence étant une capacité d'adaptation plus poussée. Parce que le fait, voilà, donc c'est déjà a priori peut-être... Louis de Saussure.
En tout cas, disons, ce qu'on peut observer dans le langage humain, sont des, disons, donne accès à des particularités de l'espèce humaine probables. On n'est pas sûr, évidemment, mais enfin, du fait que les singes ne font pas de propositions relatives, par exemple, ni de sous-entendus perfides, par exemple, on peut suggérer que, comme les humains le font, il y a quelque part une petite ligne de partage entre les autres espèces et nous à ce niveau-là. Maintenant, ce n'est pas directement ça la question, je pense, qui est posée par mon collègue Tuberbuller. C'est plutôt de savoir quelles sont les bases structurelles qui préexistent ou qui ont dû exister à un moment donné pour que, dans un second temps, d'une certaine manière, on développe ces aptitudes-là. Tout à coup, l'homme fait des structures très complexes, etc. Alors sur l'intelligence, on a par exemple tout un ensemble de mots dans les langues humaines, dans toutes les langues humaines, qui nous permettent de parler de ce qui n'est pas présent, de ce qui n'est pas là. Et ça, c'est une propriété importante des langues humaines. Nous avons en particulier la négation, qui nous permet d'évoquer ce qui n'est pas le cas. C'est une, disons, une propriété de représentation tout à fait spéciale. Et dans une certaine mesure, elle est aussi manifestée lorsque nous parlons du futur, ce qui va faire demain, éventuellement même ce qui a eu lieu hier, donc la temporalité aussi à voir avec ça, ainsi que lorsqu'on parle de ce qui est possible ou ce qui est impossible de faire. Ça, je pense qu'il y a aussi là des éléments qu'on pourrait appeler communément, dans le sens commun, intelligence, d'une certaine manière, qui nous distingue en tant qu'être humain d'autres propriétés et qu'on peut observer à travers les expressions disponibles dans le langage. Maintenant, il y a des éléments qui ont été identifiés par Klaus Tuberbuller et son équipe qui font penser que la ligne n'est pas complètement rigide de partage entre certains singes qu'il a observés et l'être humain, puisque dans certains cas, on a l'impression qu'il y a des morphèmes qui ont un comportement de type dénégatif, de type négatif, dans certaines circonstances. Alors on ne sait pas encore très bien comment il faut les traiter, ces éléments. Par exemple, il n'y a plus d'aigle, mais il faut demander à Klaus Tuberbuller de nous expliquer ça. Et s'il y a effectivement un terme ou un élément de cri qui veut dire il n'y a plus de quelque chose, et qu'on retrouvera d'une manière systématique dans différentes circonstances, il n'y a plus d'aigle, il n'y a plus de serpent, etc. Alors là, on a peut-être quelque chose qui ressemble à une morphologie, mais on n'a pas encore une syntaxe, si vous voulez. Alors ça, on peut développer après.
Oui, votre réponse à ce stade, est-ce que la négation est présente dans les observations que vous avez menées?
Alors, il y a pas mal d'évidence que si on regarde, si on analyse des séquences des cris que des singes produisent, on trouve des règles dedans. J'ai un petit exemple ici que je peux vous montrer. C'est un singe qu'on a étudié au Nigeria, Partenos monkey, je ne sais pas le nom en français, c'est un petit singe qu'on trouve là. Et là, on a trouvé d'abord, comme chez les singes vervettes, qu'il y a des différents cris d'alarme. Il y a un cri qu'on a trouvé contre les aigles. Alors ça, c'est le premier type. Et puis, il y a un deuxième type qu'on a trouvé normalement contre les panthères. C'est un peu différent. Acoustiquement, on peut facilement distinguer les deux. Mais puis, en plus, on a trouvé que les singes, des fois, produisent des séquences avec les deux types dedans. Et voilà une illustration de cette piaou. Et puis il change. Donc il y a une transition du premier type au deuxième dans les mêmes séquences. Et non, on n'était pas vraiment clair pourquoi ils font ça, ça n'a pas donné beaucoup de sens. Et on a trouvé que si le singe produit cette combinaison, c'est toujours avant une progression, avant un voyage. Donc s'il fait cette combinaison, on peut prédire que le groupe va voyager dans une autre part de la forêt. On a mesuré ça, vous voyez ici à gauche.
C'est le allons-y, le let's go.
Voilà, un peu let's go, oui. Et ça n'a rien à faire avec les prédateurs, c'est une autre signification qu'on ne peut pas vraiment prédire de deux éléments-là. Alors ça, c'est un exemple que Louis a mentionné où les différents cris, ils reçoivent la signification pas de la structure directe, mais de la voisinage, de la combinaison avec les autres.
Alors, mais en même temps, ça signale une différence importante avec les langues humaines, puisque en langues humaines, si je fais aigle-panthère, je n'obtiens pas, ou c'est très difficile d'obtenir, sans un processus tout à fait spécial qu'on appelle la lexicalisation, un nouveau sens différent. Les phrases ou les expressions combinées que nous formons sont compositionnelles, c'est-à-dire sont les résultantes de composition d'éléments inférieurs, n'est-ce pas ? Voilà. Donc là, c'est comme si crac-boum, je ne sais plus comment on appelle ça, forme voilà, un nouveau mot qui a son autonomie. Et donc ça, ça ne plaide pas tout à fait en faveur d'une morphologie, mais il y a d'autres éléments qui pourraient... voilà. Il faut peut-être aussi voir qu'il y a une question qu'on a à peine abordée, mais qui a été abordée par Adriaan, qui est la question sociale. Hein. Et c'est peut-être juste le moment de signaler qu'il y a un débat très intense, très ancien et très profond sur la relation entre l'origine du langage, l'avantage qu'il procure, si vous voulez, d'un côté, un avantage de type cognitif, conceptuel, communicatif en termes de contenu, et d'un autre côté, un type d'avantage en termes de coordination sociale, etc. Et entre les deux, finalement, disons, le cœur des chercheurs balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Les linguistes vont plutôt préférentiellement vers l'option contenu, c'est-à-dire on regarde l'histoire des vervets qui entendent le cri et filent dans l'arbre, on se dit là, c'est une question de contenu. Mais bien évidemment qu'il y a aussi tous les effets de coordination sociale et probablement que ce n'est pas une opposition entre les deux, ça c'est mon point, mon avis personnel, mais qu'il y a une conjonction des deux effets qui se développent et qui amène cette solidité, cette puissance de stabilité du langage dans l'espèce humaine.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui.
Klaus, dans quelle mesure ces langues de singe, le langage de singe sont innées ou acquises pendant la vie? La question que j'aimerais poser, si par exemple une population de singes vervets dans une partie de l'Afrique, est-ce qu'il va comprendre ces signaux faits par des singes qui habitent ailleurs?
Oui, non, c'est très essentiel. Alors, probablement, la majorité du comportement vocal chez les singes est inné, d'un sens que l'espèce développe la capacité de produire ces différents cris, même s'il n'y a pas un environnement naturel, par exemple. Donc, dans les zoos, souvent, on remarque qu'ils poussent des cris d'alarme, mais il n'y a pas un panthère là. Mais ils donnent ça, souvent, ils donnent ça dans un autre contexte. Donc, ils sont capables de faire ça, mais l'apprentissage, c'est dans l'usage, comment ils utilisent les cris dans les différents contextes. Et j'ai une petite illustration, parce que c'est une question très importante. Ce n'est pas bien recherché, mais on a fait une comparaison avec une espèce, le singe de Diane, qui habite en Côte d'Ivoire, ici, dans la forêt de Thaï. Et là, c'est un environnement très naturel avec des aigles, des léopards, tout est là. Et on a fait une comparaison avec une autre habitant en Sierra Leone sur une île. Et sur cette île, il n'y a pas de panthère. Il n'y a jamais eu de panthère. Donc les singes, ils ne connaissent pas la signification des cris de la panthère, tout ça. Et on voudrait savoir comment les singes à Tiwai Island, en Sierra Leone, comment ils réagissent premièrement, contre la panthère, est-ce qu'ils sont capables de donner le cri propre ou pas? Et si on joue les cris d'alarme panthère, est-ce qu'ils vont réagir d'une manière semblable ou pas? Et voilà le résultat. Si vous simulez la présence d'un aigle à taille, le mâle va réagir comme ça. Et c'est exactement la même chose à Tiwai. Et à taille, si on simule la présence d'une panthère, c'est ça. Mais à Tiwai, où ils ne connaissent pas les panthères, elles réagissent différemment. Ils n'ont aucune idée. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la réaction à Tiwai, c'est pareil qu'à taille si un arbre tombe. Donc c'est une disturbation générale qui n'a pas vraiment une signification. Donc c'est ça qu'ils font à taille. Et la même chose, il faut attirer contre les arbres et contre la panthère. Donc, ils ne sont pas capables de faire la distinction. Donc, l'apprentissage, c'est sur ce niveau. Ils sont un peu dirigés vers la direction, mais ils doivent apprendre les subtleties, les subtilités des événements pour vraiment spécifier les comportements. C'est ça un peu le modèle. Mais les cris, ils sont là, ils développent normalement.
Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur. Attendez. Vous avez une question? Ah, pardon. Oui.
Mais donc après, si justement vous essayez une fois de simuler la panthère, si une deuxième fois ou une troisième fois vous la simulez, est-ce qu'il y a un cri particulier qui va ressortir ou... Ou est-ce que ça va rester le premier cri ou quelque chose comme ça?
Malheureusement, on ne sait pas. C'est un projet qu'on voudrait faire maintenant avec les singes vervettes où on introduit un nouvel type de prédateur qu'ils ne connaissent pas encore et on donne plusieurs suggestions. Donc, on fait une combinaison avec un cri d'alarme contre l'aigle, le panthère, tout ça. Et la question, c'est est-ce que les autres singes ils sont capables d'apprendre cette relation qu'on les donne artificiellement ou pas? Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une certaine flexibilité au niveau de comment ils partagent le monde dans les différents types de prédateurs. Mais on ne sait pas encore la réponse. Mais c'est très important, oui, pour...
D'autres questions? Sinon, je pensais revenir un peu au sujet de la construction sociale inhérente au langage pour prolonger un peu la question d'avant avec Adrian Bangerter. On parle maintenant, c'est très à la mode, du langage non verbal. C'est peut-être aussi un peu ce que vous observez quand vous analysez les conversations. On ne parle pas qu'avec les mots, on parle beaucoup, et si ce n'est plus, avec le corps. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus par rapport à l'évolution? Est-ce qu'on a d'abord commencé à mimer? Est-ce que c'est venu en même temps que les cris? Qu'est-ce que vous pensez?
Alors, est-ce que le langage était d'abord
de
la communication
orale, gestuelle, orale, en même temps, coordonné?
Là, je suis... pas compétent pour commencer, c'est plutôt les collègues.
Mais pour ce qui est du langage non verbal, alors aujourd'hui...
Du point de vue de l'acquisition du langage par le jeune enfant, il y a clairement les deux composantes qui sont présentes dès un très jeune âge. Donc par exemple, l'enfant apprend déjà, avant même de savoir parler, à interpréter par exemple le sens d'un geste. Par exemple, l'exemple classique, c'est... le geste de pointage, donc à partir de quel moment est-ce que je vais comprendre que quand je désigne quelque chose du bout de mon doigt, qu'il faut regarder là-bas et qu'il ne faut pas regarder le bout du doigt. Donc il y a des différences claires entre les espèces. Je crois qu'il y a quelques travaux comme quoi certains animaux arrivent à décoder ça, certains animaux qui ne sont pas des primates. Mais ça, c'est quelque chose qui reste un peu l'apanage, disons, de l'être humain.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? C'est... Oui, monsieur.
Deux petites choses, peut-être pour avoir eu un chien, il semble que la communication qu'on a avec le chien, elle est, on lui parle, il répond évidemment pas, mais moi j'ai le sentiment qu'il comprend le langage non verbal, le langage du corps, ça me paraît l'expérience que j'ai pu faire. Et puis pour amener un deuxième volet à mon intervention, est-ce que vous pouvez dans une partie ultérieure de la discussion aborder la différence entre langage écrit et oral, parce que quand on passe à l'apprentissage des langues étrangères, il me semble pouvoir dire que la compétence orale et écrite est souvent différente. On peut être très fort à l'oral et être bien emprunté à l'écrit. Et ce rapport oral-écrit m'intéresserait pour un petit développement de votre part.
Merci beaucoup, monsieur. Alors d'abord, la première partie de la question, oui, c'était sur les animaux, à partir de quel moment on peut parler de communication entre les espèces interspécifiques, donc entre l'homme et l'animal domestique?
Alors concernant les chiens, les chiens sont très intéressants parce qu'ils partagent un peu de l'histoire avec l'homme. Ils sont domestiqués depuis 10 000 ans, je crois, plus peut-être. Et probablement ce que l'homme a fait, il a préféré les individus qui interagissent mieux avec l'homme, et comme ça on a une sélection artificielle vers des capacités cognitives qui aident la communication avec l'homme. Parce que si on fait la recherche avec les loups qui sont proches, ils sont complètement différents, ils ne s'intéressent pas du tout. Ils veulent même pas regarder dans les yeux d'un homme, ils n'aiment pas ça. Donc c'est clair qu'il y avait une sélection assez forte sur cette espèce. Donc ils sont trop humains, les chiens, par rapport aux autres animaux. Et c'est intéressant parce que tu as mentionné le pointage. Les chimpanzés ont beaucoup de problèmes avec ça. Si on a deux comment on dit, contenants, oui, voilà, avec deux nourriture dedans, à gauche, mais pas à droite. Et moi, j'ai fait comme ça. Chaque enfant va rapidement comprendre que moi je veux communiquer quelque chose, que ça c'est ça qui est relevant et pas ça. Mais pour un chimpanzé, c'est pas évident. Il va choisir par hasard. Il peut pas comprendre que moi je veux communiquer à lui que ça là est relevant. Et une interprétation qui est intéressante, c'est que les chimpanzés, ils sont très proches évolutivement, mais ils n'ont pas vraiment évolué ce sens de coopération qui est typique pour l'homme. Nous sommes très très coopératifs. Par exemple, c'est pas possible d'avoir 50 chimpanzés dans une salle comme ça qui se connaissent pas. C'est impossible. C'est la guerre. Donc ça nous dit déjà que nous sommes comme espèce, nous sommes très oui, coopératif et peaceful, c'est quoi?
Paisible.
Paisible, oui.
pas toujours.
Oui. Oui c'est merveilleux, l'idéalisme. Mais alors, sur l'enfant qui comprend le geste de pointage, il y a plusieurs hypothèses, évidemment, celle de la coopération est une des grandes hypothèses. Ce n'est pas la seule, et puis elle n'est probablement pas, même si elle est juste, elle n'est peut-être pas le seul élément qui contribue à ça, puisqu'on suggère en général qu'il y a une composante qui consiste à deviner les intentions de celui qui agit ou qui parle, quand il s'agit de langage, qui relève d'une aptitude, disons, très très bien connue dans l'espèce humaine, l'aptitude qu'on décrit parfois sous le terme de psychologie naïve, hein, c'est-à-dire la connaissance que nous avons de la psychologie des autres et de la nôtre aussi, c'est-à-dire qu'on est capable de transférer vers autrui sans en être conscient du tout, disons, des fonctionnements mentaux et de les comprendre à partir de cette psychologie naïve, donc d'interpréter les intentions, d'attribuer aux autres des intentions et des états mentaux de manière très générale. On parle de théorie de l'esprit bien souvent pour décrire ça.
Vous pouvez donner oui. juste un petit exemple.
Ben, c'est-à-dire que tout simplement, Si par exemple ici une personne qui ne peut pas parler dans les circonstances sans gêner l'assemblée a très très soif et fait un petit signe à l'autre et regarde avec insistance une bouteille d'eau, eh bien l'autre personne va faire cet effet de divination, si vous voulez. Il va deviner que ce regard participe d'une intention et qu'on lui demande de passer la bouteille. Voilà, c'est un exemple. Alors quand on parle de communication linguistique, si vous voulez, quand un locuteur utilise une phrase pour communiquer un message, si vous voulez, il se trouve que le langage humain n'est pas assez précis, il est toujours ambigu ou pratiquement toujours ambigu, et on ne peut pas expliquer la compréhension des énoncés dans la vie courante sans cette capacité de remonter à partir de ce code vers une représentation complexe qu'on suppose correspondre à un état mental. Donc on attribue des intentions de sens, ce qu'on appelle en français courant des vouloirs dire, si vous voulez. On se pose la question de qu'est-ce qu'il veut dire. C'est une question qu'on se pose sans le savoir à chaque phrase que nous devons traiter. Et ça intervient pas seulement avec le langage, ça intervient bien évidemment avec tous les étages de la communication verbale, non-verbale. C'est la même chose. Si j'arrive dans une chambre d'hôtel avec ma femme et j'ouvre la fenêtre, on est au bord de la mer, je fais « Ah !» Eh bien, elle va comprendre l'état mental qui m'habite et que je cherche à lui communiquer quel bonheur nous avons d'être en ce moment au bord de la mer, etc. Et que peut-être il faudrait qu'elle aille chercher son maillot de bain et tout un ensemble de choses qui peuvent m'habiter à ce moment-là. Pour qu'on, voilà. Eh bien, ça, si vous voulez, c'est actif dans la communication non-verbale, mais évidemment bien aussi dans la communication verbale parce que les phrases ne suffisent pas à porter tout le sens qu'un locuteur peut intentionner. Et ça, c'est probablement une différence qui est très importante avec ce qui se passe dans d'autres espèces animales où le code suffit, si vous voulez, ici, dans les exemples qu'on voit, le code suffit à la communication. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les singes ne peuvent pas faire des sous-entendus perfides. Évidemment, nous pouvons le faire et l'essentiel, pratiquement, de notre communication verbale repose sur des aspects qui sont des aspects de sous-entendus. Alors des pathologies, il y a ici d'autres experts que moi qui connaissent mieux ça, des pathologies humaines qui font intervenir des déficits, si vous voulez, à ce niveau-là de capacité d'attribuer des intentions à autrui, montrent également des capacités diminuées à l'interprétation des messages linguistiques. Donc la communication par le langage fait intervenir quelque chose qui est absolument non langagier, qui a une capacité cognitive d'attribuer des pensées à autrui. Ce qui fait le langage, arrête avec ça, ce qui fait le langage humain, c'est en partie ça, mais c'est aussi une structuration très particulière des mots, si vous voulez, des signaux, une structuration qui fait que nous pouvons, à l'aide d'un nombre de signaux limité, produire un nombre illimité, infini, de phrases possibles. Et ça, c'est une propriété typiquement humaine qui a été beaucoup discutée, la récursivité de la syntaxe, etc. On en a... Voilà.
Donc, je crois que Adrien Bargerter veut en ajouter quelque chose.
Oui, donc j'étais un peu impatient parce que je crois que tu as dit quelque chose qui était très important, c'est que donc nous avons une particularité qui a le langage, mais il y a quelque chose qui va de pair avec ça, c'est que nous sommes adaptés de manière à faciliter la coopération, donc le fait d'être 50 dans cette salle, ça c'est un bon exemple. Et nous avons toute une série d'autres adaptations qui facilitent en fait le décodage des intentions des autres, donc le fait de pouvoir lire dans les esprits des autres. Un exemple que j'ai toujours trouvé fascinant, c'est le fait que les êtres humains ont le blanc des yeux, qui est beaucoup plus grand, donc nous avons le blanc des yeux qui est beaucoup plus développé que chez d'autres espèces voisines. Et donc ça, c'est quelque chose qui facilite en fait, qu'est-ce que ça facilite? Ça facilite la détection du regard. Donc c'est beaucoup plus facile de regarder où un autre être humain regarde que pour d'autres espèces animales. Et donc qui dit détection du regard, dit aussi détection des intentions des autres. Donc ça, c'est un exemple d'une petite adaptation par laquelle on voit très bien que nous sommes une espèce qui a été... designed, façonné en quelque sorte pour la collaboration avec d'autres individus de notre espèce.
Il y avait une, Il y avait une deuxième partie de la question qui se prolongeait vers l'écriture, puis après je repasse la parole à la salle, mais cet aspect de l'écriture, justement, c'est par rapport aux langues étrangères. Quand on apprend une langue étrangère, on l'apprend aussi de manière écrite, de manière orale. Ce n'est pas tout à fait le même rapport à la langue. Est-ce que... Le linguiste
est très peu équipé pour répondre à ce genre de questions, en fait, qui est une question en fait tout à fait pertinente d'un certain point de vue. Hein. Mais comme les linguistes se préoccupent de l'étude des langues, la manière dont, si vous voulez, on transcrit ces langues est quelque chose de tout à fait superficiel, hein, d'un point de vue linguistique. C'est-à-dire que les systèmes d'écriture ne nous renseignent pas sur la structuration des langues, par exemple. Ou bien... ne nous renseigne, si vous voulez, que parce que ça constitue un témoignage de quelque chose, si vous voulez. Mais voilà. Alors, que nous soyons plus ou moins efficaces à l'oral, plus ou moins efficaces à l'écrit, je ne sais plus qui posait la question, dans l'apprentissage, voilà, des langues étrangères, ça, c'est une question de neurologue plus qu'une question de linguiste. Et là, je dois dire que je ne suis pas très équipé pour vous répondre. Hein. Mais il est vrai que de manière beaucoup plus générale, on a beau développer des méthodes d'apprentissage de la lecture, plus catastrophiques les unes que les autres en général, mais enfin, disons, on s'aperçoit qu'il y a toujours, et ça les logopédistes le savent mieux que tout autre, il y a toujours des équipements différents d'un individu à l'autre, des facilités ou des difficultés qui vont se retrouver de manière différenciée dans les individus, si vous voulez, voilà. L'écriture fait intervenir beaucoup de processus autres que linguistiques, si vous voulez. Et la lecture également fait intervenir d'autres processus que linguistiques.
D'accord. Il y avait monsieur qui avait une question, puis ensuite madame.
Mais je peux recommander par contre un très bon livre sur la question de l'écriture et de la lecture. C'est le livre de Stanislas Dehaene. Ah maintenant le titre m'échappe en cet instant précis, mais Stanislas Dehaene, vous allez trouver, et vous trouverez une conférence podcastée de sa part sur cette question, sur la lecture et l'écriture. C'est une conférence au Collège de France. C'est tout simplement éblouissant sur toutes les pathologies de la lecture et de l'écriture et sur les ressemblances intrinsèques entre tous les systèmes graphiques qui reproduisent des types de formes qu'on trouve dans la nature de manière statistiquement comparative, etc. Alors là, vous allez avoir de quoi vous renseigner.
J'aurais voulu répondre à monsieur pour les chiens. Ils sont non seulement sensibles à la gestuelle, mais ils comprennent aussi des mots. Par exemple, les chiens guides d'aveugles sont capables d'apprendre 30 mots différents. Vous lui dites « letbox », il vous amène à la boîte aux lettres. Vous lui dites « zebra », il vous fait traverser la rue. Donc surtout en labrador, il prend l'initiative de vous faire traverser la rue. Si vous prenez l'autobus, par exemple, vous arrivez dans une ville étrangère, il s'arrête quelque part, l'autobus, et là vous descendez, vous allez vous promener avec le chien, et au bout d'un moment, vous lui dites « casa », eh bien, il vous ramène à l'autobus là où vous l'avez quitté. Et en plus, ce qui est mieux que le GPS, il évite les fouilles ou des accidents de terrain, de même que les obstacles en hauteur. Et là, c'est quand même des aides utiles pour les aveugles. Et là, on voit qu'ils sont capables d'apprendre ça, et ils apprennent ça en une fois. Et s'ils n'ont pas réussi à l'apprendre une fois, on renonce et on reprend ça 2-3 jours plus tard. Et la deuxième fois, ça marche. Voyez, et alors, je trouve qu'ils sont supérieurs à nous pour apprendre par cœur, parce que moi, pour un poème, j'arrive pas en deux fois, hein, il me faut quand même plusieurs fois. Et ils sont moins bons que les chevaux, parce que les chevaux, il paraît qu'il faut leur apprendre 100 fois la même chose jusqu'à ce qu'ils aient appris la chose. Excusez. Hein.
Merci beaucoup pour cette remarque. Oui, c'est vrai qu'on peut, prolonger aussi la question de savoir à partir de quand on induit finalement la capacité de comprendre notre langage, et ça c'est un autre processus que le langage spontané. Je crois qu'il y avait des expériences avec le langage de sourd-muet, la langue des sourds, pardon, qu'on apprenait la langue des signes, voilà, qu'on apprenait à des singes. Est-ce que vous pouvez dire deux mots là-dessus pour prolonger?
Oui, non, c'est bien établi que on peut designer On peut générer un langue artificielle avec des symboles ou des gestes ou des autres choses. Et avec un peu de patience, on peut enseigner ça à un singe, ce n'est pas un problème. Il y a plusieurs exemples dans la littérature. Par exemple, le kanji, le bonobo, il comprend, je ne sais pas, 400, 500 lexigrammes qui sont complètement abstraits. Il n'y a pas une possibilité de comprendre la signification sans savoir. Et pour lui, c'est facile, il y a son petite machine, il peut taper sur les différents signes et communiquer avec un homme de cette manière. Ce n'est pas difficile pour eux. Aussi, les chiens, il y a des exemples des chiens qui connaissent 200 mots. Et on peut aussi, ce qui est intéressant, la manière d'apprendre. On peut, par exemple, il y a une étude avec un chien qui s'appelle Rico. C'était publié dans Science il y a quelques ans. Et là, par exemple, il connaît les noms des différents jeux. Et what's toy? Jouer, voilà. Et on pose par exemple 4 jouets dans une chambre qu'il connaît les noms et une 5e qu'il ne connaît pas les noms. Et on dit au Rico, va chercher le Danu, un nouveau mot qu'il ne connaît pas. Donc il entre dedans, il doit choisir l'objet qu'il ne connaît pas le nom automatiquement. Et si on le teste plus tard, avec ce nouveau mot, il va se souvenir. Donc, c'est le même processus d'apprentissage qu'on trouve chez les enfants. Donc, c'est une exposition qui est suffisante et il a appris que ça, là, ça, c'est le mot pour ce nouveau objet que je ne connais pas encore.
Tout à fait. Là, on est dans le domaine du lexique. Et ça, c'est intéressant parce que... alors, il y a des recherches aujourd'hui, peut-être que tu les connais... qui sont les recherches de Tannenbaum, etc., sur les inférences bayésiennes. Alors, il semblerait...
C'est-à-dire ?
Pardon, oui, voilà, justement. Donc, il semblerait que nous soyons équipés, nous, les êtres humains, en tous les cas, alors peut-être qu'aussi d'autres espèces, c'est probable, avec un mécanisme automatique, si vous voulez, qui nous permet de... Comment dirais-je ? D'acquérir des connaissances nouvelles sur la base de statistiques assez sophistiquées, hein, et très efficaces. C'est-à-dire une exposition à peu d'éléments, peu de cas, nous fait tirer une généralité très rapidement. Alors, il y a des modèles qui permettent d'expliquer que c'est comme ça, on ne sait pas si c'est juste, hein, mais en tout cas ça marche, que c'est comme ça qu'on acquiert le lexique. C'est-à-dire après quelques expositions à un mot, on est capable de discriminer chaise d'autres objets, même si on n'a eu que vraiment peu d'expositions au mot chaise. On ne va pourtant pas confondre la chaise et le tabouret assez rapidement. Alors ça, c'est le domaine du lexique. Par contre, quand tu dis qu'on est capable d'enseigner des langues artificielles à des singes, le linguiste dit non, ce n'est pas des langues, ce sont juste des lexiques ou des systèmes lexicaux. Hein, puisque bien évidemment, une langue fait intervenir un type de structuration assez précis. Donc on est loin du langage. Hein, puisque nous, les linguistes, nous appelons langage exclusivement ce qui a une syntaxe. Et donc, le langage reste une AOC humaine, de ce point de vue-là. Voilà. Pour faire une boutade, si vous voulez.
Il y avait une question dans la salle.
Oui, bonsoir. Alors, je suis biologiste et puis j'ai vu une expérience où j'aimerais vous faire part et surtout avoir l'interprétation de M. Louis de Saussure. C'était concernant l'intention, justement, et ce langage des signes. Mais apparemment, j'avais vu une expérience où il y a un chimpanzé qui a été élevé avec des hommes. Donc, il a appris un certain langage avec des symboles et tout ça. La personne qui s'occupait de ce chimpanzé, elle l'a appelé au téléphone en lui disant « J'arrive dans 10 minutes et si tu es sage, je te donnerai une banane. » Et une fois que cette personne est arrivée auprès du singe, le chimpanzé s'est tout de suite excité et puis il est allé vers son petit tableau et il appuyait sur la touche banane, 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 comme si il avait vraiment compris l'intention de la personne de lui donner la banane. Donc j'aimerais avoir un peu votre interprétation de cette expérience-là.
Puisque vous m'adressez la question à moi, je vais vous répondre que je n'ai pas d'interprétation disponible. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si c'est le fait d'un hasard heureux, si c'est le fait de questions de langage, ou si c'est le fait d'autres éléments liés à la communication qui peuvent intervenir, effectivement. Et alors là, c'est là vraiment, je ne suis pas équipé pour vous répondre dans ce cas-là. Hein, voyez. Peut-être que tu connais cette expérience.
Oui, bon, c'est, je suis d'accord avec ce que Louis a dit. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça. Et y avait plusieurs projets avec des gigolos qui ont essayé d'enlever des chimpanzés pour faire des petites personnes, en effet. Et normalement, si on fait ça pour 2, 3, 5 ans, on va récolter des anecdotes comme ça, évidemment. Et ce qui manque toujours dans ce type de recherche, ce sont des études systématiques où on pose une question, on fait une expérience et après ça, on a une réponse. Ça, normalement, ça n'existe pas, malheureusement. Donc, on est laissé avec ces anecdotes qui suggèrent qu'il y a des capacités, comme tu as déjà parlé, mais on n'est pas sûr si c'est vrai ou si c'est une interprétation des entraîneurs et malheureusement, ça c'est un peu le problème.
Voilà. D'autres remarques? Oui. Monsieur?
L'écrit, le parler, c'est aussi de la musique. Alors qu'en est-il de la musique dans le domaine de l'apprentissage des langues ou des mots chez l'animal?
Je ne peux pas vous parler de musique, mais quand vous parlez de musique, à l'oreille du linguiste résonne l'idée d'intonation, de prosodie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, dans l'acquisition du langage, mes collègues psychologues le diront beaucoup mieux que moi, mais on sait bien qu'il y a des effets qui sont liés directement à des effets de prosodie, comme le marquage émotionnel, par exemple, hein, qui interviennent dans la compréhension très directement, d'une manière très, très précoce chez les petits. Il y a des réactions, tu me diras, hein, il y a des réactions tout à fait caractéristiques à certains types de contours, si vous voulez, mélodiques, on peut dire ça comme ça. Alors, les rapports, par contre, là, il faudrait un psychologue cognitiviste spécialiste de la musique, hein, pour nous répondre sur cette question. Je ne sais pas si... Toi, tu parlais de l'effet Mozart, mais dans un autre sens, sur les rapports entre langage et musique. Ils existent. Il y a des travaux là-dessus que je n'ai pas en tête en ce moment, mais je sais qu'il y a des travaux sur les proximités qui peuvent exister. Entre par exemple, oui, il y a des choses très intéressantes, ça me revient maintenant, des recherches sur les types de phrasés et les types d'attention tout à fait parallèle entre... je reprends et je vous dis ce qui me revient à l'esprit maintenant. Lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un avec le langage, il y a des effets attentionnels chez votre interlocuteur qui sont variables en fonction de différents paramètres. Pas seulement en termes de contenu, également en termes de type de phrasé intonatif. Voilà. Et on retrouve en réalité de manière surprenante... C'est ce que je me suis laissé dire par un collègue de Jean-Nico, qui est un spécialiste de musique. On retrouve les mêmes types de schémas, si vous voulez, entre les phénomènes attentionnels liés au type de phrasés verbaux et au type de phrasés musicaux. Voilà, ça, en tout cas, je m'en souviens. Oui. Donc, il y a évidemment une influence et une proximité entre ces choses-là. Bien évidemment que le langage, c'était ce que mes collègues disaient un peu plus tôt, est apparu vraisemblablement également dans des processus de recyclage de modules cognitifs, d'aptitudes diverses et variées, ou de spécialisation à un moment donné, d'aptitudes qui existaient et qui pouvaient être là aussi dédié à d'autres fonctions. Hein. Donc il y a eu des effets comme ça. Alors bien évidemment qu'on peut trouver, on n'est pas surpris de trouver des proximités de ce genre-là entre des effets de communication de type verbal et des effets, de type musical, entre guillemets, qui n'ont plus rien de conceptuel, si vous voulez.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce chapitre de la musicalité, de l'intonation peut-être, justement un même mot prononcé différemment, donne un sens tout à fait différent.
Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, disons. Je crois que tu connais apparemment mieux que moi ce sujet. J'aurais juste envie de faire remarquer que la musique, c'est aussi quelque chose qui est structuré comme un langage. Vous avez des éléments que vous pouvez composer, il y a une grammaire aussi, il y a des règles, etc. Et donc, je pense que là, il y a une grande proximité entre le langage et la musique. Peut-être pas si différent que ça.
Est-ce qu'il y a encore des questions ? C'est un café scientifique sur le langage, je rappelle. Hein, on peut parler. Bon, on est tout ouïe. À défaut de parler, on écoute. Et on a bien raison. Moi, je voudrais revenir à l'aspect un peu historique, peut-être, dans une question à propos du fait que le parler ne laisse ni traces, ni fossiles. Alors, quand on parle d'origine du langage, comment est-ce qu'on peut déterminer à quel moment les premiers hominidés ont commencé à parler? C'est quoi qui va nous permettre de justifier le moment où la parole a commencé à surgir dans les sociétés?
Oui, non, c'est clair, ça c'est un grand problème dans ce type de recherche parce qu'on n'a pas des fossiles qu'on peut décrire comme les paléontologues et tout ça. Il y a peut-être deux possibilités d'éviter ce problème. Une, c'est l'approche comparative, c'est ce que nous faisons. On prend différentes espèces des singes et on essaie de décrire qu'est-ce que sont les similarités entre le système de communication par rapport à nous. Et comme ça, on peut un peu reconstruire l'évolution. Mais c'est clair qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les 6 millions d'ans plus récents. Alors là, il faut parler avec les généticistes c'est le début maintenant, mais ils commencent à comprendre l'interaction, la relation entre le génome et le phénotype et les capacités cognitives. Et là aussi, il y a la possibilité d'extraire le génome des anciens humains, des Néandertals par exemple, c'était déjà fait. On peut faire des comparaisons entre l'homme moderne et les hommes plus anciens pour voir où est-ce que les changements dans le génome on peut trouver. Donc peut-être dans le futur, les techniques sont plus bien. On peut vraiment faire un peu d'avance là aussi.
Au niveau génétique, est-ce que vous savez ce qui nous distingue des grands singes à propos du langage?
Bon, c'est 2% de différence. Alors, il y a quelques exemples qui sont intéressants. Par exemple, cette histoire avec FoxP2, FoxP2, voilà. Oui. C'est un gène qui est impliqué dans le développement du contrôle de l'apparatus vocal. Et si ce gène est empêché, les gens vont développer des problèmes avec la parole qui sont très forts. Et ce qui est intéressant, c'est que la version de FoxP2 chez l'homme est unique. Tous les autres singes ont une version différente et on peut montrer qu'il y avait deux mutations qui sont très jeunes, de 200 000 ans peut-être. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est exactement le temps où l'homme moderne a commencé à dominer le planète. Donc une hypothèse, c'est que ces deux mutations peut-être ont nous donné la capacité de nous exprimer vocalement beaucoup plus avant, mais c'est tout ce qu'on a.
Et on n'a rien observé de tel chez les autres primates.
Bon, l'expérience ultime sera d'implanter les FoxP2 humains chez un chimpanzé, mais malheureusement, il n'y a personne qui fait. Ils ont fait ça avec des souris, mais comme c'est une souris un peu différente, il y avait des effets au niveau du comportement vocal, mais c'est trop. Les distances sont trop grandes, donc on ne peut pas vraiment apprendre trop, je crois.
Oui, oui. Oui, Félix Kessler.
Mais ça signifie donc que les langages, ce n'est pas seulement cognitif, c'est aussi anatomique, cette capacité de pouvoir parler.
C'est une question assez ancienne, en fait, si je me permets de prendre la réponse, de savoir quelle est la cause première, finalement, ou s'il y a un faisceau de conditions qui ont permis l'apparition du langage tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a beaucoup parlé, par exemple, de l'abaissement du larynx chez l'homme, qui permet une vocalisation au moins jusqu'à 100 phonèmes différents et distinguables, alors qu'on n'a évidemment pas du tout ça chez les singes. Et on suspecte que chez les Néandertals, on n'avait pas non plus cette capacité phonatoire hyper développée qu'on rencontre chez nous. Néanmoins, il y a effectivement dans Néandertal du FOXP2 muté semblable au nôtre, je crois, ou
sans
pareil, c'est bien ça. Donc, est-ce que les Néandertals parlaient ou pas? En tout cas, peut-être qu'ils avaient la capacité articulatoire, mais sans avoir la variété de son. Il y a tout un tas de choses qui sont entrées en ligne de compte. On peut difficilement imaginer un langage articulé tel qu'on l'a maintenant sans avoir non seulement la capacité articulatoire, mais également les capacités cognitives. Donc, pas seulement la physiologie de l'appareil, mais donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, du côté de ceux que je connais en linguistique, l'hypothèse qui prévaut, c'est quand même que fondamentalement, c'est les capacités cognitives et par chance, c'est la capacité phonatoire qui est intervenue.
Et les perroquets?
Ah oui, parlons des perroquets. Et oui, pourquoi pas? Bonne question, merci.
Je passe la parole au biologiste.
Chez les oiseaux, il y a deux groupes qui ont un apprentissage vocal, et ça c'est un exemple. Et normalement, cette capacité chez les oiseaux est liée avec la reproduction sexuelle, normalement. Donc chez la plupart des oiseaux, c'est ceux qui chantent mieux, beaucoup plus des intérêts chez les femelles, des choses comme ça. Et avec les deuxièmes groupes que vous avez mentionnés, je crois aussi à une dimension sociale. Ce sont des oiseaux qui vivent dans des grands groupes, naturellement. Et ça, c'est peut-être un mécanisme de groupe, identification, des choses comme ça. Mais ce n'est pas... naturellement, il n'y a pas d'évidence qu'ils utilisent ces capacités d'une manière sémantique du tout. C'est seulement une identification individuelle, peut-être au niveau de groupe comme ça, mais il n'y a rien qui est encodé d'un sens. Donc c'est un peu différent. Mais...
Et les mammifères marins, ça me vient maintenant. Dans les années 70, c'était très, très à la mode. Hein. On parlait des chants des baleines. On diffusait des 45 tours à tour de bras. Les sirènes, oui. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur...
Oui, avec les dauphins, on a fait beaucoup de progrès.
Ces animaux.
Et là, ils ont des sifflements qui sont un peu une identification d'un individu. Mais aussi, en plus, ils peuvent imiter les sifflements des autres individus. Et là, on n'est pas, c'est pas clair exactement la fonction, mais... ça doit jouer un rôle dans les relations sociales. Et aussi, ça porte aucune signification. C'est seulement une manière d'être proche avec un autre individu. Mais il ne parle pas du monde ou de l'environnement comme ça. Avec,
pas les nouvelles du monde.
Non, pas les nouvelles.
Sous-marine. Oui, madame, question là-bas. Attendez le micro, s'il vous plaît. Juste. Merci.
Je voulais savoir comment le langage structure la pensée et comment imaginer la pensée sans langage.
C'est une excellente question. C'est une question qui a été largement débattue à travers l'histoire de la pensée sur le langage. La version classique, disons qu'on trouve depuis l'Antiquité, en gros jusqu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, consistait à dire que nous avions une pensée conceptuelle, nous avons une pensée conceptuelle et le langage sert en gros à l'exprimer. Donc autrement dit, les mots et les phrases sont des correspondants audibles, si vous voulez, de choses qui existent par ailleurs et indépendamment dans notre esprit. Et puis, à partir du XXe siècle et du structuralisme, on a compris que ça n'était pas très efficace parce que ça n'explique que très difficilement les différences entre les langues, puisque les langues découpent de manière très différente les mondes ou le monde, si vous voulez, dans lequel nous sommes, qui peut être lui-même tout à fait semblable. Hein. Ainsi, vous avez un seul et même mot en français pour désigner la matière de cette table, le bois, mais qui désigne également un groupe d'arbres, tandis qu'en allemand, vous aurez deux mots différents. Enfin, on peut faire une liste absolument infinie de toutes ces différences. Mais, vous voyez, est-ce que ça veut dire qu'en français, on a un seul concept ou on a quand même deux concepts? C'est des questions qui sont très, très difficiles à, si vous voulez, à résoudre comme ça intuitivement. Par contre, ce sur quoi on est à peu près au clair, c'est que l'existence d'une étiquette lexicale, c'est-à-dire d'un mot, pour désigner une certaine catégorie du monde, facilite de manière radicale, énorme, la communication à propos de cette entité-là, et donc la fixe en quelque sorte, ou l'intègre, comme étant, si vous voulez, stable et homogène. On fait un concept avec les mots. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup plus de concepts à notre disposition, potentiellement, que nous n'avons de mots. Autrement dit, pour un mot, il y a potentiellement une grande variété de concepts plus précis à notre disposition, qui vont se moduler selon les circonstances de la communication. Donc le langage intervient dans la formation de notre pensée conceptuelle, bien évidemment, mais il n'épuise pas la formation de cette pensée conceptuelle. Il y a des choses qui, semble-t-il, sont déjà des pré-catégorisations très, 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 très précoces chez l'enfant et qui sont antélinguistiques aussi. Les grandes catégories, l'animé,
l'inanimé. Vous pouvez donner des exemples, là, chez l'enfant ?
Peut-être que tu connais ça mieux que moi, mais par exemple, il y a tout un ensemble de connaissances naïves dont l'enfant dispose avant même d'avoir le langage. Alors si, par exemple, une conscience de l'environnement physique, il y a une physique naïve qui intervient très très tôt chez l'enfant. Or, évidemment, les concepts liés au monde physique, le haut, le bas, la chute, la gravité, enfin ces ensembles de notions-là qui interviennent évidemment plus tard par le langage, ce n'est pas uniquement les mots qui vont structurer cet ensemble de choses conceptuelles, puisqu'il y a une préexistence de certaines notions avant l'émergence du langage. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte, mais voilà.
Je crois qu'on arrive à suivre. Ouais. Pour l'instant, vous avez bien appliqué la théorie de l'esprit. Vous avez deviné les intentions facile. Du public. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame.
Merci. Pour revenir un peu à l'histoire de l'homme, mais je ne sais pas de quoi je parle. J'essaie de poser une question. Donc, il y a le nombre d'objets culturels qui a été développé par les hommes préhistoriques. Donc, des cailloux, des pierres pour tailler, des fils, etc. Donc, cet inventaire, en fonction du temps préhistorique, il est relativement bien connu. Oui. Donc on peut dire, alors, moins 200 000, il y avait ça, moins 100 000, il y avait ça, etc., en fonction des endroits. Est-ce qu'on peut faire une corrélation, une comparaison un à un sur le langage hypothétique qu'on ne connaît pas, qui était nécessaire et suffisant pour maîtriser cet environnement artificiel, mais aussi naturel, qui reste plus ou moins constant? Donc l'idée derrière ma question... ça me paraît peu de sens d'imaginer qu'ils auraient des mots qui vont loin au-delà de ce qu'ils font. Oui. Donc, s'ils taillent la pierre d'une manière pendant 30 000 ans, oui. des générations, toujours de la manière à peu près semblable, il me paraît improbable qu'ils ont un vocabulaire qui dépasse ce travail qu'ils peuvent ou qu'ils font sur la pierre. Inversement, s'il y a des objets plus complexes qui sont construits, je ne peux pas très bien m'imaginer qu'on n'ait pas assigné des mots. Oui,
vous avez voilà, parfaitement raison.
Peut-être si je me... commentaire un peu là-dessus, parce que ça permettrait de donner un axe du temps.
Vous avez soulevé un point qui est tout à fait capital, extrêmement intéressant, et qui permet même d'ailleurs d'envisager différentes étapes dans la fabrication, la constitution du langage humain à travers son évolution. Je crois, mais je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, mais je crois qu'on trouve des outils façonnés déjà il y a 2 millions d'années. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on me corrigera si je dis une bêtise, hein, si quelqu'un... Mais, pardon ? 2,5. J'étais pas très loin pour un linguiste, ça va. Voilà, vous voyez, 2,5 millions d'années. On sait qu'il y a une mutation du gène FOXP2, on ne sait pas très bien la deuxième mutation quand elle a eu lieu. Elle est assez difficile à dater, je crois, pour l'instant. Les chiffres dont on a l'habitude se situent autour de moins 150, moins 200 000 ans. Il y a moins 150, moins 200 000 ans, l'espèce humaine sort d'Afrique, si vous voulez, selon la thèse habituelle de Out of Africa, et va conquérir le monde, n'est-ce pas ? Il y a encore une grande marge jusqu'à la révolution culturelle du néolithique, moins 50 000, à partir, ça commence, ça balbutie à moins 50 000, puis c'est moins 30 000, etc. Avec les conquêtes aussi maritimes, il y a des traversées maritimes qui se font il n'y a que 30 000 ans, hein, donc récemment, si vous voulez, dans l'histoire de l'homme. Ça laisse suggérer la chose suivante, mais on est dans la spéculation la plus incontrôlée, hein. Ça laisse suggérer la chose suivante que, bien évidemment, assez tôt, si vous voulez, pour la fabrication et la transmission de type de fabrication d'outils, il fallait au moins des choses de type lexical, des éléments de type lexical, des mots qui permettent de désigner, mais de désigner non seulement des objets, mais aussi des types d'actions. Alors ça, c'est très intéressant, bien évidemment, parce que pour faire, il faut une catégorie particulière. Je ne suis pas sûr que les singes, par exemple, aient cette catégorie particulière, qui est la catégorie verbale, hein, tout ce qui concerne l'événement, le faire, le fabriquer, par exemple, etc., à l'action. Maintenant, jusqu'à la révolution culturelle, on peut supposer que ce lexique s'est mis à cristalliser des mots grammaticaux. C'est-à-dire, non seulement, vous savez que nos langues humaines, là on peut regarder dans toutes les langues humaines, nous avons deux grands types de mots dans nos langues. Nous avons des mots qui désignent des types de choses conceptuelles, des noms, par exemple table, chaise, justice, liberté, des verbes, manger, dormir, des adjectifs, rouge, bleu, grand, petit, etc. Mais nous avons une autre catégorie d'instruments linguistiques, et la plupart des linguistes considèrent que c'est cette autre catégorie d'éléments linguistiques qui fait vraiment la base de ce qu'on appelle le langage. Ce sont les mots grammaticaux, la négation, les temps verbaux, les connecteurs, les marqueurs de pluriel, enfin toutes ces choses-là, etc., qui nous permettent de fabriquer des phrases, et donc de faire des actes de langage, d'avoir des injonctions, de représenter des prédictions complexes sur ce qu'il faut faire, etc. Donc, dans la spéculation la plus débridée, j'aime bien l'hypothèse qui veut qu'il y ait une certaine linéarité, qui va d'abord d'un lexique, on trouve un lexique chez les singes, un lexique qui se complexifie, dont certains éléments se transforment en éléments grammaticaux, et ça on sait qu'il y a beaucoup d'éléments lexicaux, des mots, tables, chaises, etc., qui deviennent des éléments grammaticaux, on en a la trace, même dans l'évolution des langues indo-européennes, c'est-à-dire un horizon très très faible de 6000 ans, ça on en a la trace, donc on sait que ce processus existe, qu'il est récurrent dans les langues humaines, et donc on peut supposer qu'il a émergé de manière massive à un moment donné pour stabiliser des langues articulées et complexes.
Pour répondre à monsieur, je vous conseille de lire le livre de monsieur Marcel Loquin, Quelle langue parlaient nos ancêtres préhistoriques ? Il s'est basé sur les langues anciennes et sur une centaine de langues qu'on parle encore aujourd'hui. Et il est arrivé à une vingtaine de signes primitifs qui sont doués d'une signification.
Alors je me permets juste d'enchaîner un tout petit peu hein, là-dessus. Donc nous avons des données assez stables qui nous permettent de reconstituer une langue, ou disons en tout cas un ensemble de racines, qui était utilisé par un certain peuple indo-européen voici seulement 6000 ans. Au-delà, nous avons quelques spéculations intéressantes et des recoupements statistiques sur des grands corpus de langues de groupes différents qui nous permettent de suggérer un certain nombre de racines pour des groupes plus anciens, antérieurs au groupe indo-européen. On parle du groupe nostratique, par exemple, pour un groupe qui regroupe langues asiatiques, sémitiques et indo-européennes. Alors, quelques idées, mais là, vous voyez, on remonte dans le temps, mais pas du tout dans un type d'échelle dont on parle pour parler des premiers mots ou des premières racines qui seraient apparues chez les premiers sapiens qui auraient utilisé des mots. Donc soyons, je veux dire, j'incite simplement à une certaine prudence à l'égard de ces soi-disant grandes découvertes sur les petites racines. Cela dit, j'aimerais quand même aussi profiter de cette occasion pour signaler que autant les langues changent par certains aspects, si vous prenez par exemple la première phrase du Notre Père en anglais contemporain et que vous la regardez en vieil anglais, vous avez deux langues qui ont l'air complètement différentes. Hein. Mais d'un autre côté, il y a un certain nombre de zones qui ne changent pratiquement pas. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'en français, nous utilisons un mot pour dire « père », n'est-ce pas, qui est « pater » latin, mais vous retrouvez ce même mot dans toutes les langues indo-européennes avec très très peu de variations. En grec, on dit « pater », le sanskrit donnait « pitar », enfin, on a vraiment... Voilà. Alors, de temps en temps, il y a des lignes comme ça qui ont une forme de stabilité. Alors, on peut supposer que « pete » nous donne quelque chose de plus ancien, hein, voilà. Mais c'est de la spéculation, de nouveau, avec laquelle il faut être très prudent.
Oui. Monsieur.
J'ai une question qui me taraude déjà depuis quelques temps déjà. Ce serait à quel point est-ce que l'éthologie peut être inscrite dans notre génome ? Puisque, pour citer nos rumeurs que j'aurais entendues qui m'a l'air véridique, les dodos ont été exterminés parce qu'ils n'avaient pas appris à avoir peur de l'homme. Mais pourtant, donc c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'être vraiment lié à la génétique, mais que pourtant, Oui, enfin bref.
Les dodos ne sont pas équipés de manière native pour résister à tout à coup ce qui allait se produire, c'est ça ?
Par exemple, pour revenir à cette histoire de singes qui ont grandi sur une île qui ont été privées de panthères, comment est-ce que pourrait se passer un croisement entre cette espèce de singe-là et une autre ?
Alors, premièrement, il faut dire...
Est-ce qu'on peut inoculer, au fond, une caractéristique génétique qui serait peut-être, supposément, génétique ? À un autre. Mais qui résulterait d'un comportement. La génétique. Alors,
le problème, c'est que, je dis ça avant, la relation entre le génome et le phénotype est très peu connue. Alors, l'exemple du dodo, je ne connais pas bien, mais ce qu'on trouve souvent, c'est sur des îles où il n'y a pas des prédateurs depuis des millions d'années, on trouve que le cerveau. Devient plus petit dans les espèces. Donc, si on prend la même espèce qui vivait depuis, je ne sais pas, 10 000 générations sur une île sans prédateur, il devient plus simple, si on veut. Et ça, peut-être, ça pose des problèmes si l'environnement change et il y a soudainement un nouveau prédateur qui arrive, ils ne sont pas équipés de réagir assez soudainement. Donc, cette population... extinct, mais autrement est très peu connu. Là, entre cette, c'est une question très importante, mais on ne sait pas beaucoup, malheureusement.
Alors, s'il n'y a pas de main qui se lève dans l'immédiat, j'aimerais avoir un mot de la fin. On va essayer de répondre à la question initiale. À qui l'AOC du langage ? Alors, au terme de cette discussion, qu'est-ce qu'on dira ? Singe, humain ? Je vous laisse à chacun d'entre vous peut-être conclure. D'abord, Adrien Van Gerter.
Alors, je dirais que c'est c'est une question de degré, puis ça dépend, c'est des objets complexes. Le langage, c'est un objet très complexe, et puis je pense qu'il y a certains attributs qui sont uniques à l'humain, il y a certains attributs qui sont graduellement visibles à mesure qu'on remonte l'échelle évolutive. Et puis, il y a clairement des éléments qui sont partagés par les différentes espèces.
Oui, je vois ça très similaire. Alors pour moi, la question, c'est comment on veut définir langage. Et si je suis d'accord avec lui que langage humain est défini par le grammaire, le syntaxe et tout ça, et ça, on ne trouve pas chez les animaux, c'est clair. Donc, dans ce sens, c'est un comportement uniquement humaine, mais quand même, ça, on peut poser des questions sur les racines de tous les éléments qui sont nécessaires pour développer la capacité du langage. Et là, je crois que les singes sont importants et on peut apprendre beaucoup. Mais chaque espèce est unique, c'est pas seulement nous.
Oui, ce qui est absolument fascinant pour qui s'occupe de langue humaine ou de langage humain, quand on regarde les éléments de communication qu'on rencontre chez ces singes, c'est de voir qu'il y a, au-delà de toutes les différences et de toutes les barrières des espèces, si vous voulez, au-delà des changements qualitatifs en quelque sorte qu'il y a entre eux et nous, et il y a aussi une forme de proximité, puisque les systèmes de cris, et je dis système un peu instinctivement comme ça, qu'on rencontre sont structurés. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fascinant, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas utilisés de manière arbitraire, si vous voulez, et ils sont même combinés parfois pour former de nouveaux signaux. C'est ce qu'on a vu avec la combinaison aigle-panthère pour former un nouveau signal. Ça, je dois dire, ça, le fait de prendre deux choses pour en faire une troisième, c'est peut-être l'une des racines du langage humain, si vous voulez, et peut-être même aussi de la pensée humaine, et de pouvoir cristalliser ces nouvelles formes, si vous voulez, et les utiliser pour interagir entre divers membres d'un groupe social. Voilà. Donc, AOC certainement humain sur le plan grammatical, la grammaire est, si vous voulez, l'essence même du langage, mais il n'y a pas de langage sans qu'il y ait de sens, et ma foi, on trouve du sens dans ces éléments, et on trouve du lexique aussi, même s'il est sommaire dans ces éléments-là. Et alors, quand on trouve de la régularité, ça nous intéresse.
Voilà, et je profite encore pour faire une petite annonce que m'a suggéré Louis de Saussure. Voilà, nous sommes toujours en avance sur l'actualité avec nos cafés scientifiques. Le numéro de mars de Sciences Humaines, je vous laisse voir la couverture, le langage en 12 questions. Voilà, si vous voulez prolonger la lecture.
Avec des réponses inégales.
Voilà, je voudrais profiter aussi pour remercier toute la technique qui assure le déroulement de ce café scientifique, François Bourquin, régisseur, et Roland Hamsler à la technique son et image. Je pense qu'ils méritent des applaudissements. Et puis, bien entendu, les trois intervenants qui nous ont parlé longuement de leur point de vue sur l'origine du langage. Et on va rester un peu dans la thématique, on a choisi un peu les animaux, on a dérivé vers les humains, et maintenant on va rester avec le langage pour le prochain café scientifique, avec la langue, facteur d'intégration, donc en écho à la politique migratoire de ce pays. Est-ce qu'il faut obliger les populations migrantes à apprendre une langue nationale ou non ? Le débat risque d'être chaud à la veille des élections. Donc je vous invite ici le mercredi 17 avril, même heure, même lieu. Merci beaucoup de votre fidélité et bonne soirée.